civiliser la modernité ? Whitehead n'avait évidemment pas prévu ce que nous vivons aujourd'hui. Le choix que j'ai fait de le situer dans les rues d'Athènes, lieu emblématique de l'histoire d'origine de la philosophie, ne signifie pas l'ambition de discuter cette origine, ni non plus de donner à la manière dont Whitehead a prolongé cette scène le pouvoir de proposer des réponses qui valent pour aujourd'hui. Ce serait faire de lui un voyant ou un prophète. De fait, on pourrait dire que lire Whitehead demande à la fois de le situer et de nous situer. Whitehead appartient à son époque, avec ses inquiétudes qui sont encore les nôtres et avec ce qui, pour nous, peut apparaître comme ses taches aveugles. De fait, par moments, le lisant, on peut être tenté par la stupide supériorité revendiquée par le présent sur le passé. Nous savons mieux, nous dirions autrement. Dans cet essai, j'ai choisi de densifier ce que je partage avec lui grâce à des thèmes plus contemporains. En ce qui concerne les taches aveugles, il est bon de se souvenir que ce que nous sommes censés ne plus pouvoir ignorer aujourd'hui est loin d'être ce que, désormais, nous serions capables de penser de manière conséquente. Ce sont plutôt des dettes qui nous hantent, mais qui sont toujours impayées. Peut-être, comme le dirait Étienne Souriau, n'avons-nous pas, ou pas encore, payer le prix du passeur. Peut-être la facilité avec laquelle nous sommes tentés de brûler aujourd'hui ce qu'hier nous avons adoré traduit-elle la tentation de considérer la critique comme un accomplissement en tant que tel, alors même que le problème n'a pas été effectivement positivement déployé. Ainsi, nous ne savons pas à ce jour s'il est envisageable de civiliser la modernité, le possible qui a fait penser Whitehead, ou si nous vivons la débâcle de cette civilisation. Nous ne savons pas si les histoires qui se raconteront à notre propos dans le futur fabriqueront les continuités d'un héritage vivant ou parleront de nous sur le mode du « eux », ces créatures étranges qui leur ont légué un monde en ruine. Lire Whitehead aujourd'hui revient certainement à accentuer le point d'interrogation qui accompagne l'idée qu'il serait possible de civiliser la modernité, mais non à lui apprendre que ce pari est pour le moins spéculatif. De fait, c'est la conviction que la civilisation moderne était sur son déclin qui a fait du mathématicien Whitehead un philosophe. C'est, pourrait-on dire, une conviction pré-philosophique, forgée par un académique qui se posait la question de savoir si cette civilisation pourrait jamais se remettre du climat mauvais dans lequel est née la société industrielle et qui a vécu de près la manière dont ses collègues lettrés, prisonniers de modes d'abstraction devenus professionnels, participaient de ce climat. Donnant à la question de la misère ouvrière la réponse que Caïn fit à Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» La tâche positive que Whitehead a assignée à la philosophie, souder le sens commun à l'imagination, vise d'ailleurs, on l'a vu, ces spécialistes dont il s'agit de réfréner les ardeurs et d'ouvrir l'imagination. Mais la figure du philosophe à qui le sens commun confie ce qui le fait ruminer pour qu'il l'élucide et donne un sens cohérent à ce que démembrent les jugements spécialisés, n'est pas celle d'un révolutionnaire, même si les révolutionnaires peuvent à juste titre dénoncer le rapport entre professionnalisation du savoir et oppression sociale. Ce serait encore donner à un mode d'abstraction particulier le pouvoir de définir la vérité d'une situation. Ce que le sens commun figuré par Whitehead demande n'est pas « qui a raison ». C'est une élucidation qui apporte une compréhension cohérente là où règne la discorde. Or, quelle cohérence peut-elle se dégager entre ces modes d'abstraction spécialisés qui se disputent? Et la réponse de Whitehead, mathématicien-philosophe, est que cette cohérence ne définira aucun bien-pensé à restaurer. Il ne s'agira pas de répondre à la question de Socrate « qu'est-ce que ?», avec l'idée que chaque mode d'abstraction, s'il se conforme à son juste champ d'application, participera avec les autres à la réponse selon une forme paisible et polie de division du travail. Les disputes ne s'expliquent pas en une perte, une distorsion, un défaut. Pour un mathématicien, la cohérence ne doit pas être retrouvée, mais créée. La soudure est une opération métallurgique, et c'est également une opération technique que va mettre en œuvre Whitehead pour créer cette cohérence, pour conférer à la philosophie la capacité d'activer l'importance de ce que nous savons, même si les spécialistes nous refusent le droit de le faire importer. Civiliser les modes d'abstraction qui vouent les penseurs modernes à la bataille, avec pour seul point commun la disqualification du sens commun, demande de reformuler ce qu'exigent ces modes d'abstraction sur un mode tel qu'ils perdent tout rapport avec un droit ou une légitimité, qu'ils soient appréciés à la manière de modes de prise aventurés, toujours en risque de négliger quelque chose qui, ici, dans ce cas, importe. Un mathématicien n'en demande pas moins, et c'est ce que Whitehead s'attachera à accomplir dans son œuvre métaphysique « Procès et réalité ». Civiliser la modernité, ce serait alors obtenir des spécialistes qu'ils apprennent à se situer, selon le mot d'Haraway, ou alors, selon le mot de Deleuze, à honorer la vérité du relatif par opposition à la relativité du vrai. La vérité de savoir qui sache se présenter comme relatif aux questions qu'ils ont pu effectivement poser. Dans les deux cas, ce serait obtenir des spécialistes qui lient activement ce qu'ils savent et ce que leur savoir, pour être produit, a dû omettre. Cela n'a l'air de rien, dira-t-on peut-être. Mais rappelons-nous l'affaire des OGM. Ceux qui discutaient des OGM de laboratoire savaient bien qu'ils omettaient toutes les questions que leur laboratoire ne permettait pas d'aborder. Mais il a fallu les luttes activistes pour que ces OGM cessent de se présenter comme la clé d'un progrès décisif de l'agriculture. Tout le reste étant plus ou moins négligeable, destiné à s'arranger par la suite. Civiliser la modernité, ici, aurait signifié que tous les protagonistes concernés soient réunis pour faire sens en commun de ce qui prétendait sortir du laboratoire. Et que nul, surtout, ne pense à se présenter ou à présenter son savoir spécialisé en se prévalant de termes tels qu'universel, objectif, rationnel, des termes qui tous renvoient d'une manière ou d'une autre ceux à qui on se présente aux ténèbres des savoirs anecdotiques, des habitudes particularistes, des attachements subjectifs, des croyances irrationnelles, des affects passionnels. On pourrait dire que c'est là une ambition déjà notable qui mérite bien son point d'interrogation. Mais, dira-t-on, les activistes n'avaient pas lu Whitehead. Ce sont leurs luttes qui ont soudé une imagination vivifiée à la question désormais partagée par beaucoup de ce que serait une agriculture durable. On le verra, la métaphysique de Whitehead est susceptible d'accompagner ce « faire commun » généré par les activistes, qui prolonge la notion de sens commun loin des rues d'Athènes, mais aussi loin de l'image de l'humain détenteur de son opinion. C'est la singularité d'un système métaphysique obligé par la cohérence que d'avoir forcé le penseur à un trajet littéralement expérimental où il a fait et défait ses concepts jusqu'à ce qu'aucun ne puisse tenir indépendamment des autres. Et ce faisant, le penseur lui-même s'est défait des manières de poser les problèmes et des économies de pensée que son époque autorisait. Non pas qu'il atteigne l'universel au-delà des limitations de son époque. Le système de Whitehead est situé par cela même qu'il vise à créer la cohérence entre nos modes d'abstraction modernes. Aussi pourrait-on dire qu'il n'est plus situé par une époque, mais par la question de la civilisation à laquelle son époque, mais aussi la nôtre, appartiennent. Cette civilisation est certainement pas la civilisation. Whitehead a toujours été attentif à la pluralité des civilisations. Il aime à contraster la civilisation moderne, née en Europe, et celle des Grecs, des Égyptiens, des Sémites, et ne développe jamais l'idée d'un progrès de la civilisation à travers ce qui ne constituerait que des étapes. Dans Mode de pensée, la notion de civilisation est présentée comme une généralité, et dans Aventure d'idées, comme difficile à définir, ce qui est propre à toute généralité au sens de Whitehead. Mais il est inébranlable sur un point. Il n'y a pas de civilisation moderne. Copier les Grecs, par exemple, n'aurait aucun sens, car eux-mêmes n'étaient pas des copistes. Ils étaient spéculatifs, aventureux, passionnés de novation. Ce que Whitehead entend par civilisation, on pourrait l'appeler un milieu de culture particulier, toujours particulier, pour les aventures propres à la vie humaine, un milieu de culture au sein duquel les traditions sont cultivées, mais aussi mises à l'épreuve et à l'aventure. Chaque civilisation, écrit Whitehead, laisse derrière elle son message sur le caractère secret de la nature des choses, sur ce que signifie vivre, agir, ressentir, sur le sens à donner à l'ordre, mais aussi au désordre, au conflit, à la frustration. Chaque civilisation proposerait donc à l'expérience humaine une manière de se comprendre elle-même, y compris dans les discordances qui la mettent elle-même sous tension et les conflits qui la déchirent. En ce sens, elle correspondrait à l'enjeu que constitue le sens commun whiteheadien, non pas un fond de savoir commun à l'humanité, mais une capacité située de participer à l'aventure de la civilisation à laquelle il appartient. On pourrait dire que pour Whitehead, une civilisation est une aventure qui se pense elle-même à travers ceux qui sont concernés par elle. C'est en ce sens qu'il peut écrire que les civilisations ne peuvent être comprises que par les civilisés. Il y a donc un historicisme radical dans la pensée de Whitehead, mais c'est un historicisme portant sur ce qui, pour cette civilisation, importe, ce qui fait penser celles et ceux qui lui appartiennent, ces aspects de l'existence qui sont susceptibles de les faire ruminer. Leur civilisation, son avenir ou son déclin, concerne les civilisés. Elle est pour eux une question qui les fait penser, hésiter, juger, espérer ou s'entretuer. Et Whitehead, en tant que philosophe, ne prétend pas transcender la civilisation à laquelle il appartient. Le défi qu'il assigne à la philosophie, souder l'imagination au sens commun, eût sans doute été assez difficile à expliquer à un ancien grec, mais tant qu'il nous semble à tout le moins discutable, nous sommes, de ce point de vue, les contemporains de Whitehead. Il importe de souligner que l'historicisme de Whitehead n'implique pas du tout qu'il devrait être possible de le comprendre en fonction de la situation historique qui était la sienne. Car c'était cette situation elle-même qui l'a forcé à penser, à créer des concepts qui en activent la problématisation. En ce sens, l'aventure conceptuelle de Whitehead est comme une bouteille à la mer ou comme une flèche lancée vers un avenir qu'il ne connaîtra pas. Voici ce qui nous est arrivé. Voici comment la civilisation à laquelle j'appartiens m'a permis de comprendre son déclin. Et le fait que nous puissions sentir aujourd'hui que le monde moderne ne peut plus être caractérisé en termes de déclin, que nous ayons plutôt pour question ce que les historiens du présent nomment la grande accélération, l'intensification accélérée de l'impact sur nos milieux et sur nous-mêmes de ce que l'on appelle développement, n'est pas en tant que tel susceptible de mettre en cause ce qui fait penser Whitehead. La manière même dont ce développement a fait l'impasse sur ses conséquences peut certes s'expliquer par le capitalisme qui en a été le moteur. Mais cela n'explique pas que, jusqu'à très récemment, la plupart de ceux qui savent l'aient identifié à un progrès, quitte à attendre de la fin du capitalisme que ce progrès bénéficie enfin à l'ensemble du genre humain. Ce que nous sommes contraints de le constater aujourd'hui, ce développement a provoqué, vérifie en ce sens le diagnostic de Whitehead à l'encontre de la civilisation moderne. L'art d'imaginer a été monopolisé et canalisé par les spécialistes devenus professionnels, sourds aux inquiétudes et aux protestations. Ceux qui s'inquiétaient et protestaient ont été accusés de chercher à entraver la marche inéluctable du progrès. « On n'arrête pas les horloges », cet énoncé de Pascal Lamy résonne encore dans ma tête. Whitehead avait écrit que toute société, c'est-à-dire, nous le verrons, tout ce qui endure en tant qu'il endure, dépend de la patience de son environnement quant à la manière dont il est affecté par elle. La Terre a perdu patience, et le tic-tac des horloges s'est fait menaçant. Cheminant avec Whitehead, j'ai donc fait le choix de lui être fidèle sur le célèbre mode du « je dirais même plus » là où je le pouvais, et de prendre le relais là où j'ai senti que mon époque ne me permettait pas seulement d'en dire plus, mais me demandait de dire autrement. Cette prise de relais ne concernera pas le système conceptuel de Whitehead, car celui-ci, on le verra, fonctionne sur ses contraintes propres, à la manière d'une machine à faire penser. Entreprendre de le modifier, c'est entreprendre de le reconstruire, ce dont j'ai d'autant moins l'ambition que je lui dois sans doute d'être capable de penser avec celles et ceux que je sens comme mes contemporains. C'est lui qui me fait oser m'aventurer avec elles et eux dans cette zone d'indiscernabilité où l'on ne sait plus si la langue que l'on parle est encore celle de l'époque moderne. En revanche, je m'attacherai au texte, principalement à « Mode de pensée » où Whitehead, lui-même héritier de son aventure conceptuelle, s'adressait à ses propres contemporains, cherchait à partager avec eux le goût d'une pensée qui ne se soumet pas à ce que nous avons le droit de savoir. Prenons un de ces textes. Ouvrez les guillemets. Dans le genre humain, la dépendance dominante vis-à-vis du fonctionnement corporel est encore présente, et cependant la vie d'un être humain reçoit sa valeur, son importance, de la manière dont des idéaux non réalisés donnent forme à ses intentions et colorent ses actions. la différence entre les hommes et les animaux n'est en un sens qu'une différence de degré. Mais l'étendue de ce degré fait toute la différence. Le Rubicon a été franchi. L'âme humaine ne médite pas facilement sur les activités des fonctions corporelles fondamentales. Au lieu de fixer son attention sur la digestion de sa nourriture végétale, elle capte les rayons du soleil traversant le feuillage. Elle nourrit la poésie. Les humains sont les enfants de l'univers avec leur entreprise folle et leurs espoirs irrationnels. Un arbre est tout à son affaire qui est de survivre, et il en est de même pour une huître, avec quelques différences mineures. La visée de la vie, survivre, se trouve ainsi modifiée en visée humaine. Survivre pour une expérience diversifiée qui est de la valeur. Fermez les guillemets. Whitehead a dû à son époque scandaliser tous les penseurs qui définissent l'humain comme être pensant, comme sapiens. Pour lui, si le Rubicon a été franchi, c'est qu'une extravagante nouveauté, parfois béatifiée, parfois damnée, parfois littéralement brevetée et protégée par copyright, témoignant pour l'insistance de ce qui pourrait être et pourtant n'est pas, pour l'insistance d'alternatives non réalisées, s'est introduite dans le monde. Sans ce sens du possible qui transfigure le donné, il n'y aurait, ne cessera de rappeler Whitehead, pas de morale, pas de religion, pas de technique, ni non plus, on l'oublie trop souvent, de science. Ni d'ailleurs de philosophie. Pas non plus de sens commun ruminant les aspects de l'existence, car s'il rumine, c'est qu'il en veut plus. Caractériser l'humain par ses entreprises folles et ses espoirs irrationnels crée certes un écart intéressant par rapport au discours sur la rationalité qui serait le propre de celui qui s'est baptisé Sapiens. Mais cela manifeste aussi que des questions qui nous hantent aujourd'hui ne troublent pas Whitehead. Et il ne s'agit pas seulement des animaux, de la question désormais vive de l'exception humaine à laquelle nous prétendons par rapport à eux. Cela pourrait concerner ces arbres qui font peut-être beaucoup plus que survivre. Ce Rubicon qui a été franchi fit un jour froncer les sourcils de Donna Haraway, malgré la libéralité avec laquelle Whitehead accordait aux animaux supérieurs des savoirs empiriques mais aussi des émotions. Elle entendait les échos d'une traversée sans retour, de la fondation d'un empire, d'une histoire dont les seuls protagonistes seront désormais les humains. Et des humains dont nous ne pouvons ni ne devons oublier aujourd'hui que leur entreprise folle, leur sensibilité aux alternatives non réalisées ne demande pas seulement la vigilance de la philosophie. Pouvons-nous, même de manière poétique, caractériser l'humain en tant que tel par des traits qui conviennent d'abord à notre civilisation? Souvenons-nous de la sinistre thèse juridique de la Terra Nullius, qui définissait comme n'appartenant à personne les terres habitées par des peuples paresseux qui, étrangers à l'esprit d'entreprise, n'avaient pas mis ces terres au travail. Des peuples dont les traditions devaient être détruites puisqu'elles étaient censées étouffer l'insistance des alternatives qui donnent valeur à la vie humaine. Est-ce l'humain qui a traversé le Rubicon? Si cela signifie aussi séparer la nature qui est et la culture qui nourrit ce qui pourrait être? Ou alors est-ce le colonisateur chargé de la mission folle de civiliser le genre humain mais animé par le possible que constituent des mondes à exploiter? Mais il ne faudrait pas ici conclure que nous savons aujourd'hui ce que son appartenance à son époque permettait à Whitehead d'ignorer. Nos questions contemporaines, que son époque n'avait pas posées, sont moins ce qui nous fait penser aujourd'hui que ce qui nous met à l'épreuve. Car la dénonciation du passé ne peut tenir lieu de pensée, ni la culpabilité de principe. Et comme toujours avec Whitehead, il ne faut pas aller trop vite. Il faut écouter le cri qui l'engage en tant que philosophe aux côtés du sens commun contre l'absurdité des doctrines qui se font gloire de renvoyer à l'arbitraire subjectivité non seulement ce à quoi elles doivent leur existence, la foi dans un possible, mais aussi ce qui les anime elles-mêmes lorsqu'elles enseignent la nécessité de juger des choses objectivement. L'alternative non réalisée d'une humanité enfin libérée de ses illusions. Ce cri est « Nous sommes les enfants de l'univers ». Nous sommes à ce point habitués à penser un univers indifférent à ce qui fait vibrer nos expériences que nous reconnaissons comme sans doute objective n'importe quelle thèse du moment qu'elle a l'allure d'une vérité qui blesse, c'est-à-dire qu'elle se traduit par la défaite du sens commun. Mais le cri de Whitehead est celui que son aventure métaphysique l'autorise à pousser et cette métaphysique ne dit rien de l'homme. C'est l'univers lui-même, tel que sa métaphysique le conçoit, en tant que ce faisant qui donne sens au possible, à l'insistance des alternatives non réalisées, au lien entre existence et valeur, et cela sur un mode qui peut concerner aussi bien l'huître et l'arbre que l'humain. Ouvrez les guillemets. Nous n'avons pas le droit de défigurer l'expérience de la valeur qui est l'essence même de l'univers. Fermez les guillemets. Nous sommes les enfants de l'univers. Communique donc avec une obligation, un engagement contre l'absurdité à laquelle la philosophie moderne a participé lorsqu'elle a follement entrepris de faire des entrepreneurs modernes le prototype de l'humain, enfin parvenu à l'âge de raison. Whitehead lui-même n'est pas allé plus loin, n'a pas interrogé d'autres manières de faire valeur propres à d'autres enfants de l'univers. Mais sa métaphysique, elle, peut nous aider, hier comme aujourd'hui, à desserrer les dilemmes incontournables qui nous étranglent.